Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour aborder un sujet que j'aborde souvent à travers mes vidéos, mais que j'ai jamais abordé tel quel, c'est-à-dire les études derrière l'alimentation intuitive. C'est une vidéo qui va être un peu différente de d'habitude. Si le contenu vous plaît, même si ça change, n'oubliez pas de la liker, ça me permettra de savoir si ça vous plaît ou pas, en fait, tout simplement. Merci. Allez, let's go. Je m'aperçois que sur Instagram, notamment, quand on entend parler de l'alimentation intuitive, on a l'impression que parfois c'est une approche, une méthode qui aurait été inventée par je ne sais qui. Limite, on a l'impression parfois que c'est un truc qui a été inventé par des influenceurs et qui sont là pour te dire de grossir et de manger tout ce que tu veux. Et du coup, à chaque fois, je me dis, je sais pas, c'est étrange de voir les choses comme ça, parce que c'est une approche scientifique qui a été développée par des diététiciennes sur de nombreuses années, qui a été validée scientifiquement. À chaque fois, je trouve ça dommage de pas vouloir creuser, et je pense notamment aux professionnels de santé qui s'y intéressent, mais pas totalement, et qui, j'ai l'impression, pour beaucoup, voient ça comme une approche qui a été inventée dans le garage de quelqu'un. Alors qu'il y a énormément d'études qui ont été faites dessus. Et voilà, je voulais revenir sur finalement comment l'alimentation intuitive a été inventée et vous montrer en quoi c'était une approche scientifique qui avait ses sources dans la science et qui était validée aujourd'hui par la science. Et qui a des résultats en fait scientifiques qui ont été menés sur des milliers de personnes. Et je sais que moi personnellement, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a aussi attirée et attisé ma curiosité quand j'ai découvert l'alimentation intuitive. Parce que, moi j'ai fait des études scientifiques et j'avoue que je suis pas. Je vais pas aller vers les trucs dont on me parle comme ça sans me renseigner un minimum. Et je me souviens que la première fois que j'ai lu le livre de l'alimentation intuitive, je me suis dit. Ah oui, en fait, il y a tout un nouveau monde que je ne connaissais pas, autant chez des professionnels de la nutrition que de la psychologie. Et ça m'a vachement aidée, je pense, à faire confiance au process et à me laisser porter, en fait, vers ce qu'on me disait, ce qu'on me proposait. Parce que c'était une approche un peu validée, finalement. Alors que si ça avait été une approche développée par une personne, je pense que j'aurais émis beaucoup plus de doutes, ce qui est, je pense, normal. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous parler de tout ça aujourd'hui, parce que finalement, je trouve que c'est important d'être dans la critique, dans la prise de recul, d'être dans l'analyse. Vraiment, je trouve ça essentiel, même surtout aujourd'hui où on nous propose un million de choses. Mais je pense que c'est important de prendre conscience de l'état actuel de la science et de la réalité de ce qu'est l'alimentation intuitive, plutôt que de se fier aux 10 premiers articles que vous verrez sur Google qui expliquent l'alimentation intuitive. Donc voilà, je pense que cette vidéo, elle est à la fois destinée aux professionnels qu'aux particuliers. Donc petit retour sur les fondements et la validation de cette approche scientifique qu'est l'alimentation intuitive. Donc déjà, il faut savoir que c'est une méthode qui est inspirée par la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux diététiciennes qui ont créé l'alimentation intuitive, donc Evelyn Tribol et Elisa Reich, si elles ont eu l'idée de créer cette approche à la base, c'est parce que, déjà, elles voyaient que ce qu'elles proposaient grâce à leurs études de diététicienne à leurs patients ne fonctionnait pas, ou en tout cas pas sur le long terme. Donc elles ont commencé à chercher finalement comment améliorer leur pratique. C'est vraiment venu de là à la base, hein. Et donc elles se sont penchées sur la littérature qui existait déjà autant en psychologie qu'en nutrition. Et elles se sont intéressées notamment au comportement compulsif, à la psychologie derrière l'alimentation, au comportement alimentaire chez les enfants. Évidemment, à ce moment-là, il y avait aussi des études qui étaient déjà faites sur les régimes et sur le fait que ça ne fonctionnait pas. Et elles se sont aussi intéressées au côté social, aux influences externes qui pouvaient avoir un impact sur notre comportement alimentaire. Donc en fait, il y avait déjà à cette époque-là, donc ça remonte aux années 90, il y avait déjà à cette époque-là des études qui existaient sur tous ces sujets-là. Et donc elles s'y sont intéressées. Elles ont vu des choses qui allaient complètement à l'opposé de ce qu'elles proposaient finalement. Et même si elles étaient intriguées, elles étaient à la fois sceptiques parce que bah, justement ça allait à l'encontre de tout ce qu'elles avaient appris. Donc forcément en tant que professionnelle, c'est un peu compliqué de remettre en cause tout ce que tu as appris. Et elles disent d'ailleurs dans leur livre au tout début que c'était une remise en question pas du tout évidente, mais essentielle si elles voulaient améliorer leur pratique et proposer des choses qui fonctionnent à leurs patientes. Donc voilà, première chose, l'alimentation intuitive, ça a vraiment été une approche qui a été inspirée par la science déjà existante. Ensuite, une fois qu'elles ont compris tout ça, une fois qu'elles sont sorties un petit peu de leur zone de confort ou leur zone d'apprentissage liée à leurs études, elles ont commencé à mettre en place l'alimentation intuitive, ou plutôt à créer l'alimentation intuitive finalement avec les patientes et les patients qu'elles suivaient. Donc en fonction des résultats qu'elles avaient compris, qu'elles voulaient tester et la réalité de ce que vivaient leurs patients, elles ont mis en place une méthode clinique. Donc en collaboration finalement avec leurs patients. Et en fait, ce genre de méthode, c'est une méthode scientifique, parce qu'on peut avoir l'impression que bah, c'est juste, voilà, elles ont fait des tests, c'est vite fait et c'est tout. Alors qu'au contraire, ce genre d'expérimentation a tout d'une méthode scientifique, étant donné qu'on va beaucoup plus profondément dans le suivi de personnes, d'individus, dans toute leur complexité. Et donc, ça permet de mettre en place des choses sur bah, la réalité de ce que vivent les gens et sur du plus long terme. Avec du coup des personnes qui vont pouvoir communiquer sur des vécus, des situations réelles et du coup permettre d'orienter les réflexions de manière directe et super pertinente quand on est capable de se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé par exemple et qui revient systématiquement auprès de plusieurs patients. Et en tout cas, l'analyse des résultats va se faire de manière beaucoup plus approfondie et qualitative quand on a ce genre de suivi. Donc ça, c'était la deuxième partie. L'alimentation intuitive a été créée via une méthode clinique. Et il me semble que les méthodes cliniques, c'est surtout des méthodes qui sont utilisées en psychologie. Et du coup, on voit complètement l'intérêt de ce genre de méthode dans ce genre de sujet où on est en train de parler du rapport à l'alimentation, qui est donc très lié à la psychologie de chaque personne. Donc après tout ce travail, elles ont créé l'alimentation intuitive, elles ont divisé ça en 10 principes et elles ont publié un livre à ce sujet expliquant voilà, leur méthode. Donc ça, c'était en 1995. Elles ont continué à proposer donc l'alimentation intuitive à leurs patients, à communiquer dessus. Mais en fait, on a commencé à parler de l'alimentation intuitive qu'une dizaine d'années plus tard, quand des études ont commencé à être faites sur l'alimentation intuitive et les différences qu'on observait chez des personnes qui étaient des mangeuses intuitives et des personnes qui n'étaient pas des mangeuses intuitives. Donc des différences à la fois sur l'IMC, sur la stabilité de leur poids, sur leur comportement alimentaire, sur leur capacité à manger en fonction de leur faim davantage qu'en fonction de leurs émotions. Les études ont commencé aussi à aborder d'autres indicateurs de santé comme les risques cardiaques, le taux de graisse dans le sang. Et en fait, petit à petit, les médias ont commencé à s'intéresser à cette approche et donc forcément, d'autres études se sont enchaînées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une échelle, par exemple, qui permet de définir si vous êtes un mangeur intuitif ou pas. Donc cette échelle, elle a été créée pareil, de manière scientifique. Elle a même été mise à jour plusieurs fois depuis 2005 à peu près. Et en fait, cette échelle, elle a été d'une grande aide parce qu'elle a permis de faciliter finalement le choix des populations qu'on prenait pour faire les études. Elle a permis de faciliter aussi l'analyse des résultats qu'on obtenait sur est-ce que les personnes sont devenues des mangeuses intuitives ou pas. Bref, ça a vraiment été le début de l'explosion des études sur l'alimentation intuitive. Et depuis 2006, il y a eu énormément d'études, je crois qu'il y en a plus que 125 même aujourd'hui, qui à la fois valident scientifiquement l'alimentation intuitive et ses bénéfices pour la santé, autant la santé mentale que la santé physique, mais aussi des études qui montrent en place... Quoi? Mais aussi des études qui mettent en avant l'efficacité de l'alimentation intuitive chez des personnes, par exemple, qui sont atteintes de troubles alimentaires ou qui ont une relation compliquée avec la nourriture. et qui montre que finalement les personnes qui mettent en place une alimentation intuitive ont un IMC plus faible et un poids plus stable à travers le temps. Et on a pu constater une amélioration globale d'indicateurs de santé physique et mentaux des personnes suivies dans les études. D'ailleurs, n'hésitez pas à rechercher hein, sur Internet les études scientifiques sur l'alimentation intuitive. Il y en a plein. Il y en a qui sont accessibles gratuitement, il y en a qui ne sont pas accessibles gratuitement, où vous pouvez juste lire l'abstract. Mais déjà, ça vous donnera une idée. Mais il y a aussi plein d'études qui sont disponibles gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre propre idée de tout ce que je suis en train de vous dire finalement. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on commence à voir émerger des reviews. Donc des études qui prennent toutes les études qui ont été faites avant sur l'alimentation intuitive et qui font une petite compilation des résultats qu'on a pu trouver, qui analysent la pertinence de chaque étude, qui observent les résultats, qui les comparent entre elles et qui font donc une analyse des analyses précédemment faites. Donc ces revues-là, elles sont super riches, elles sont super pertinentes et enrichissantes parce que déjà, ça vous permet, si vous avez la flemme, de ne pas aller lire toutes les études qui ont été faites avant, mais surtout, ça vous permet d'avoir une vision globale de quels résultats ont été démontrés avant et quels résultats ressortent plus ou moins. Je vais vous mettre le détail d'une des revues qui a été faite, par exemple, en 2014. Voilà l'état actuel des choses sur l'alimentation intuitive. Et ça me paraissait essentiel de faire vraiment un focus sur la démarche scientifique qu'est l'alimentation intuitive, autant dans ses fondements que dans sa validation en fait. Et je pense que encore une fois, c'est vraiment essentiel de se renseigner sur tout ça, parce que moi, comme je le dis à chaque fois, je suis là pour convaincre absolument personne. Moi-même, j'ai dû me convaincre moi-même quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation intuitive. Donc surtout, faites vos recherches, allez regarder tout ce qui est fait à ce sujet. Donc voilà, ça me semblait important de revenir sur les fondements de l'alimentation intuitive et la méthode scientifique qu'est l'alimentation intuitive. Parce que je pense qu'on a tendance à l'oublier. Alors je sais pas si c'est parce que moi je fais des vidéos sur YouTube sur ce sujet, qu'on a l'impression que c'est une méthode inventée par une youtubeuse dans son coin. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est l'image que l'alimentation intuitive a parfois au sein des professionnels de santé. Et je trouve ça dommage parce que souvent ce sont ces mêmes personnes qui vont mettre en avant l'importance de la littérature scientifique et je trouve ça super important et je suis complètement d'accord. Mais du coup, j'ai un peu du mal à comprendre comment on est dans le rejet parfois de l'alimentation intuitive. Surtout que souvent ces mêmes personnes vont proposer une méthode, leur méthode, qui va souvent être un mix entre un rééquilibrage alimentaire, un travail sur les émotions, un travail sur soi. Donc ils vont proposer leur méthode, qui n'est a priori pas validée scientifiquement, tout en mettant en avant de l'autre côté l'importance des études scientifiques et en rejetant l'alimentation intuitive pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas sans prendre en compte le fait que c'est une méthode scientifique créée par des professionnels de santé et basée sur la science. Donc voilà, j'ai l'impression que cet aspect-là de l'alimentation intuitive n'est pas connu, n'est pas pris en compte, n'est pas mis en avant. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de creuser davantage sur tout ça, que vous soyez un particulier ou un professionnel de santé. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses concernant l'alimentation intuitive et je trouve ça dommage parce que je pense que ça pourrait servir à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, je propose moi un accompagnement en ligne, donc basé sur l'alimentation intuitive. Vous trouverez toutes les informations dans le premier lien qui est dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!